Réfléchissons cette semaine sur le thème « La vie après la mort ». Nous sommes inspirés de l'allégorie de la caverne de Platon pour saisir que déjà chez les anciens et jusqu'à nos jours, chez les plus performants de nos scientifiques, il y a bien cette notion qu'il existe en dehors de ce monde dans lequel nous vivons, un autre monde qui peut rendre une vie possible, qui peut permettre que cette vie terrestre, lorsqu'elle vient à son terme, ne s'achève pas définitivement, mais se transmue dans une autre existence, dans une autre façon d'être, mais qui est peut-être la vraie vie, celle dont le Christ nous parle quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous avons vu que dans les écrits de l'Ancien Testament, pour un premier temps tout au moins, il est affirmé que d'abord la vie ne s'achève pas avec la mort. Mais on imagine qu'elle se poursuit sous une autre forme, mais une forme qui n'a rien d'heureux et de joyeux, car le séjour des morts se trouve séparé de Dieu. Comme dit le psaume 88, « Dieu perd le souvenir de ceux qui descendent dans la fosse, et là ils sont coupés de toi. » Et c'est bien ce qui rend la mort effrayant pour ces anciens. Ça n'est pas tant que ce soit la fin de la vie, d'ailleurs ça ne l'est pas, mais c'est le fait que la relation avec Dieu soit devenue impossible, qu'elle soit coupée. Alors on pourrait aller un peu vite en besogne et penser que ces anciens avaient réalisé qu'une fois le corps disparu, la personne avait disparu avec. Mais ce n'est pas le sens des textes. Il nous affirme une forme d'existence, peut-être souterraine, ténébreuse, loin de Dieu, mais une existence tout de même. Dans les écrits bibliques, cette fosse a un nom particulier. Elle s'appelle le Shéol. C'est un lieu où les morts semblent dormir, sans aucune distinction qui les caractérisait auparavant. Ils sont comme des ombres, décidément, nous revoilà avec les ombres de la caverne. Ils sont dépouillés de ce qui faisait leur statut, leur dignité sur terre. Ils sont muets. Finalement, on peut se demander s'ils ressemblent encore d'une quelconque manière à des hommes. On a plutôt l'impression, en lisant les textes, d'être en face d'une espèce d'immense dortoir dans lequel croupissent, je dirais, des sortes de chamallows humains. Le petit espoir qu'il reste, c'est que ces hommes ne sont pas morts, mais ils dorment. Et donc, nous pouvons penser qu'ils sont en attente de quelque chose, en attente d'un réveil à venir. Si Dieu est le créateur de tout ce qui est, ce lieu ne peut pas lui être totalement étranger, totalement inaccessible. Comment pourrait-il se désintéresser de ce lieu qui contient ce qui reste de ses enfants, de ses propres créatures ? D'autre part, des hommes et des femmes ont donné leur vie pour Dieu, pour défendre la foi, et certains en sont morts. Dieu n'aurait-il envers eux aucune reconnaissance ? Dieu ne peut pas oublier ceux qui lui sont fidèles. Alors on trouve un passage comme celui-ci dans le livre de Daniel. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. Ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Et les gens réfléchis resplendiront comme la splendeur du firmament, eux qui ont rendu la multitude juste comme les étoiles à tout jamais. On pourrait citer d'autres passages, bien sûr, la prophétie d'Ézéchiel sur les eaux qui reprennent vie. Nous avons là des traces déjà de ce que nous appellerons ensuite, et ce qui sera affirmé dans le Nouveau Testament, de la résurrection des morts. On ne nie pas que le corps redevienne poussière, comme il est dit dans la Genèse, mais cette poussière, on affirme qu'elle peut revenir à la vie.
Des pâquerettes, Étienne Dallaire.
Y a-t-il dans les récits bibliques des cas, des exemples de résurrection des morts? Oui, bien sûr. Je pense par exemple à la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, une résurrection opérée, entre guillemets, par le prophète Élie. Nous sommes au premier livre des Rois, au chapitre 17. Voici ce qui arriva. Le fils de cette femme, la propriétaire de la maison, tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus de souffle en lui. Alors Élie le prit dans ses bras, le porta dans la chambre haute où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur. Il s'étendit trois fois sur l'enfant et dit « Seigneur mon Dieu, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Le Seigneur entendit la voix d'Élie, et le souffle de l'enfant revint en lui, il fut vivant. Autre exemple, celui de la résurrection du fils de la Shunamite, opéré cette fois par le disciple d'Élie, Élisée. Cet enfant avait été pris de violents maux de tête, et était mort sur les genoux de sa mère. Sa mère partit en hâte chercher le prophète Élisée. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 32. Élisée arriva à la maison. En effet, le garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, s'enferma avec l'enfant et pria le Seigneur. Puis il se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta étendu sur lui, et le corps de l'enfant se réchauffa. Et je prendrai un troisième exemple, moins connu sans doute celui-là, mais peu banal, vous l'avouerez. Au deuxième livre des Rois, chapitre 13, verset 8. Le prophète Élisée, qui avait ressuscité le fils de la Shunamite, tombe malade et meurt. On nous dit, Élisée mourut et on l'ensevelit. Or, en début d'année, des bandes venant de Moab pénétraient dans le pays. Comme des gens étaient en train d'ensevelir un homme, on aperçut une de ces bandes qui arrivait. Ils déposèrent en hâte l'homme dans la tombe d'Élisée et ils partirent. L'homme toucha les ossements d'Élisée et il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Les esprits un peu chagrins et rationnels trouveront à redire que, à l'époque, on ne savait pas bien si les gens étaient morts ou pas morts, et qu'en réalité, ces cas de résurrection sont sans doute des cas de personnes qui n'étaient pas réellement mortes et qui revinrent à la vie. Peut-être devrions-nous prendre les récits des anciens un peu plus au sérieux, et ne pas considérer que ces gens étaient primaires et stupides, tout cela parce qu'ils vivaient quelques siècles avant notre ère.
cela, seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais? La solitude, le temps qui passe et l'habitude. Regarde l'air, nos ennemis. Dis-moi que oui. Dis-moi que oui. Quand nos secrets n'auront plus cours et quand les jours auront passé,
de Radio Présence. Vivante Église. Parole d'auteur. La conférence de la semaine. Des clés pour vivre.
Présence.
Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence,
4 rue des Feuillants, 31 300 Toulouse.
Ou par email à contact@radioprésence.com.
Présence.
Présence.
L'onde positive.
Connaissance et témoignage.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue en cette nouvelle émission sur l'orthodoxie. Merci pour votre fidélité à écouter nos émissions. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le Père Jean-Clément Jollet. Père Jean-Clément, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous tous.
Nos auditeurs vous connaissent bien maintenant, car nous avons déjà réalisé beaucoup d'émissions ensemble.
Avec grand plaisir, chaque fois.
Oui, pour nous aussi. Je rappelle que vous êtes recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Grégoire de Tours.
Exactement, donc au sein du patriarcat d'Antioche. Voilà, je suis rattaché au patriarcat d'Antioche.
Alors,
si vous permettez, j'aimerais, avant de commencer l'émission, avoir une pensée forte pour quelqu'un qui était à côté de vous dans le studio la dernière fois que nous avons enregistré une émission, c'est François Bruno. Maintenant, il n'est plus à côté de vous, puisqu'il est né au ciel il y a quelques mois maintenant. Puis avec Mathieu et vous-même, nous trois, nous l'avons accompagné au moment de ses funérailles. Ce fut un grand moment de prière. Voilà, je voudrais simplement lui rendre hommage, parce que c'était une personne extrêmement pieuse. Il venait dans ma paroisse autant qu'il le pouvait, bien sûr. Quelqu'un d'extrêmement discret, quelqu'un de... Voilà, Il était d'abord tout petit de taille, c'est vrai. Il se voyait tout petit dans la vie, mais je crois qu'il réalisait ainsi la parole du Seigneur, d'être le plus petit possible pour que le Seigneur prenne la plus grande place en nous. Puis je crois que lui, il a vraiment réalisé. Voilà, j'avais une pensée pour lui aujourd'hui, avant de débuter cette émission.
Oui, et puis nous sommes certains qu'il demeure en communion avec nous.
Absolument, il n'est plus à côté de vous dans le studio, mais il est bien quelque part par là.
Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un saint orthodoxe contemporain, récemment canonisé, mais encore peu connu en Occident. Donc il s'agit de saint Porphyre, mais qui a certainement beaucoup de choses à nous apprendre, puisque un représentant majeur de la spiritualité orthodoxe, après avoir lu un livre traçant sa vie et ses paroles, a pu dire « c'est le livre du siècle ». Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire quelques mots de la vie de saint Porphyre ?
Oui, bien sûr. J'ai eu la chance, figurez-vous, il y a peu de temps, vraiment quelques jours, j'ai fait un pèlerinage en Grèce, et le hasard du calendrier, puis du pèlerinage lui-même, a fait que j'ai pu aller me recueillir, sur non pas sur sa tombe, parce qu'il est au Mont Athos, je dirais, ses reliques sont au Mont Athos, mais au dernier endroit où il a vécu, sur le continent grec, donc dans le monastère qu'il a fondé, on va y revenir, et donc on a pu aller dans sa cellule, enfin, qui est une espèce de petit studio, enfin, un tout petit peu plus grand d'ailleurs, il y avait deux pièces, celle où il recevait les gens, puis celle où il vivait lui-même, et c'était un moment absolument extraordinaire. Alors je suis ravi que cette émission qui était prévue de longue date avant puisse être enregistrée maintenant, parce que j'ai encore dans mes yeux l'icône merveilleuse autour de laquelle on a pu chanter son acatiste, et puis ce lieu magnifique où on l'a vraiment croisé, parce que pour nous orthodoxes, les reliques ou bien des objets ayant appartenu à des saints montrent vraiment la présence réelle de ces personnages élus par Dieu. Et donc là, c'était des moments magnifiques. Voilà, je voulais témoigner de cela. Donc, quelques mots sur sa vie, si vous voulez. Vous avez raison de dire qu'il n'est pas connu en Occident. Il est très vénéré en Grèce, alors qu'il n'y a que 10 ans qu'il a été canonisé, en 2013 exactement. Donc, il a traversé à peu près tout le XXe siècle. Il est né en 1906, il est mort en 1991. Il est né dans l'île d'Eubée, Evia en grec. C'est une presqu'île à l'est de la Grèce. Pour la situer, une grande presqu'île, on a pu la traverser, c'est magnifique. Et surtout, il est né dans une famille extrêmement pauvre, extrêmement modeste, humble. Et ça l'a marqué toute sa vie. Toute sa vie a été extrêmement pauvre, modeste et humble, mais au sens noble du terme. Donc, on connaît bien sa vie. Donc, il est né en 1906, 5 enfants dans la famille, l'un va décéder, des parents très pauvres, je le disais, à tel point que le père doit s'exiler pour aller travailler sur la fondation du canal de Panama pour faire vivre sa famille. Donc vous voyez quand même, c'était un besoin impérieux. Lui-même a dû quitter l'école à l'âge de 8 ans, donc il a fait que 2 ans à l'école parce que, je pense, enfin d'après ce que j'ai lu, l'instituteur n'était jamais là, il n'apprenait rien. Et puis finalement, donc, il n'a aucune éducation, j'insiste beaucoup là-dessus. Quelqu'un de humble, de modeste, qui n'a aucune éducation. Et pourtant, il a fait des merveilles dans sa vie, comme on va pouvoir le voir. Donc, aucune éducation. Il a même commencé à travailler très tôt, à l'âge de 8 ans, très tôt dans les mines, pour faire vivre sa famille. Bon, ce n'était pas un cas isolé, si vous voulez, mais néanmoins, au début du XXe siècle, ça aurait pu le marquer pour toute sa vie. Et ça l'a marqué sur le plan de la sainteté. Très rapidement, donc, il a eu le désir monastique d'aller vivre au Mont Athos, donc, on a déjà souvent parlé ensemble. Le Mont Athos, c'est une presqu'île, donc au nord-est de la Grèce, donc au nord de l'île d'Eubée, au nord de là où il vivait, donc qui est une république de moines, qui est un lieu où il n'y a que des monastères. Donc c'est un lieu tout à fait original, tout à fait riche, tout à fait splendide pour l'avoir vécu. J'y suis allé moi-même plusieurs fois. C'est un lieu de haute spiritualité orthodoxe. Il a toujours été attiré dès son plus jeune âge. Pour telle et telle raison. Donc voilà, il a eu la vocation. Il est monté une première fois au Mont Athos. Et là, il a eu une révélation divine extraordinaire. C'est-à-dire que, il sortait l'adolescence. Et puis, il y a eu un événement dans sa vie qui va marquer tout le reste de sa vie, qui va lui donner cette vocation unique à la sainteté quelque part. Donc il se trouve en pleine nuit, donc au début de l'office, enfin un peu avant l'office, il va à l'église de la petite dépendance du monastère où il habitait, donc la petite dépendance au Mont Athos, bien sûr, il va à l'église centrale, donc il arrive un tout petit peu à l'avance, l'église est encore fermée, il se met dans un coin dans l'ombre, et arrive un vieux moine qui ne le voit pas, un moine qui a 90 ans à peu près, un vieil ascète, un vieux sage. Et cet homme-là, donc, qui est perclus lui-même de maladie, de rhumatisme, il arrive, et lui-même, donc, avant d'entrer dans l'église, puisque bon, il n'a pas la clé non plus, donc, il est devant la porte de l'église, et en voyant qu'il n'y a personne, sauf le jeune moine qui s'appelait Nikita, s'il ne s'appelait pas encore Saint Porphyre, mais qui était caché, il commence à 90 ans à faire des prosternations répétées. Des prosternations, c'est on s'allonge devant, on s'allonge, on se relève très rapidement, et à prier devant la porte fermée de l'église, 90 ans quand même. Et donc, cet homme-là était revêtu de la grâce divine. Et cette grâce divine s'est diffusée sur le jeune moine qui était là, donc il s'appelait encore une fois Nikitas, et là ça bouleversait sa vie. Incroyable. Un mouvement qui n'appartient qu'à Dieu, bien sûr. Et là, quand il est rentré dans l'église, à ce moment-là, couvert de la gloire de Dieu, il n'a cessé de répéter « Gloire à notre Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Et ça, ça va être sa parole pour toute la vie, j'allais dire, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Toute sa vie, il ne faisait que rendre gloire à Dieu, il nous demandait de nous aimer et d'aimer avant tout le Christ. Mais ça, on va y revenir. Et donc, cette visite de la grâce l'a transformé radicalement. De manière physique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais de manière psychique aussi. Et à partir de là, donc, il a eu des dons, on va y revenir, je crois, aussi tout à l'heure, des dons de clairvoyance absolument inimaginables. C'est vraiment un signe de la grâce de Dieu, un signe de la sainteté. C'est, comment dirais-je, c'est un signe de la sainteté, c'est ça dans l'orthodoxie. Alors bon, on va revenir sur ses charismes tout à l'heure. Il continue au Mont Athos, donc revêtu de cette grâce divine, mais sa santé, malheureusement, empire de jour en jour, et toute sa vie, il va vivre dans la douleur physique, il faut le savoir, sans jamais se plaindre. Donc, bon, il ne peut pas rester pour des raisons de santé, donc il faut qu'il se fasse soigner, et il revient du côté d'Athènes par là. Il est ordonné prêtre, il a beaucoup d'enfants spirituels à partir de là, qui viennent de toute la Grèce, et aussi bien au-delà de la Grèce, des orthodoxes et des non-orthodoxes, donc qui viennent le voir pour écouter sa bonne parole, et pour être édifié dans la voie du Christ, bien sûr. Puis à partir de 1940, donc, bon, j'abrège parce que il faut s'arrêter aux grandes étapes, le voilà qui est aumônier pendant 30 ans, aumônier, donc là on est pendant la guerre, au début de la guerre en tout cas, aumônier de la polyclinique d'Athènes. Alors là, il va avoir une fonction magnifique. Lui qui est malade, ne l'oublions jamais, à l'écoute des autres malades, sans jamais se plaindre. Et là, comme il n'avait aucune éducation, il n'avait aucun diplôme, il n'avait aucune... Voilà, donc, il est à peine payé et est obligé de travailler à côté pour pouvoir survivre de cela. Et ainsi, pendant 30 ans, ne jamais oublier ce côté pauvre qu'il a toujours vécu et ce côté malade, et ce côté manque d'éducation qui vont faire de lui un saint quelque part. Donc voilà, encore une fois, je ne vais pas m'arrêter à chaque étape. Progressivement, il va donc édifier un nouveau monastère. C'est celui où je suis allé, le monastère de la Transfiguration, vers les années 1980. Et puis, il va ainsi finir sa vie. Et à la fin de sa vie, il veut retourner au Mont Athos, qu'il a vu naître spirituellement, j'allais dire, pour y être enterré. Et aussi, pensons-nous, parce que, comme il avait tellement d'enfants spirituels, est-ce qu'il se doutait quelque part que le Christ l'avait élu comme un futur saint? Il ne voulait pas qu'il y ait foule autour de sa tombe. Il voulait retourner vers Dieu en toute discrétion. Et donc, il est mort au Mont Athos. Il y a une croix simplement à l'endroit où il est mort. Voilà donc une vie tout à fait extraordinaire. Alors, j'allais dire, non, tout à fait ordinaire. Un homme pauvre, malade, qui souffre et qui aide les autres toute sa vie. Il n'a eu de cesse de vivre pour les autres en Christ. Et je crois que c'est ça qui fait sa grandeur. Finalement, est-ce que c'est pas ce qui nous est demandé à chacun d'entre nous, de vivre comme cela, de vivre avec nos faiblesses, avec notre pauvreté, à la seule gloire de Dieu? Et le dernier mot, et je m'arrêterai là après, le dernier mot qu'il a dit, donc des frères l'ont entendu, ce sont les derniers mots de l'Apocalypse, où le dernier mot, viens. En parlant à son Seigneur, bien sûr. Viens, Seigneur, viens me chercher quelque part. Oui, viens, Seigneur Jésus. Je crois que c'est la phrase entière. Et lui, Mais ce dernier mot en grec, bien sûr, vient. Magnifique vie, magnifique d'humilité, signe de sainteté, donc. Voilà, très rapidement retracé sa vie entre le mont Athos et la terre ferme, j'allais dire, et le continent, d'un côté où il était comme moine, et de l'autre côté où il était surtout père spirituel, aumônier d'hôpital pendant très longtemps et fondateur d'un grand monastère.
Oui, alors Père Jean-Clément, vous nous avez parlé aussi de ce charisme de clairvoyance. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques précisions ?
Absolument. Donc à partir du moment où il a reçu cette grâce divine, qu'il a ressenti lui-même, tous ses écrits en témoignent, il a eu des signes très rapidement qui montraient ce que l'Esprit Saint était descendu sur lui pour lui communiquer quelque part ce don de clairvoyance. D'abord, le premier signe technique, j'allais dire, c'est qu'il a aperçu d'autres moines qui venaient à lui, alors qu'ils étaient à des kilomètres, et c'était impossible de les voir de ses propres yeux. Il les a perçus, et aperçus, alors qu'ils arrivaient de loin, quoi. Humainement, c'était impossible de le voir de ses propres yeux, bien sûr. Alors, comme c'était le premier signe, il a eu un doute, il s'est confessé, voilà, il s'en est confessé à son père spirituel, qui s'appelait Pantaléimon, et qui lui a dit non, c'est vraiment un don de Dieu, et à partir de là, alors, c'est assez terrible, parce que, donc, il voyait au-delà de ce que l'œil peut voir, mais pas seulement. Il reconnaissait les voix des oiseaux et des bêtes, tant leur provenance que leur signification. C'est pas rien, quand même. Comment je peux dire? Il sentait les parfums de très loin, il reconnaissait les odeurs et même leur composition. Même les fleurs, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'il voyait les profondeurs de la terre, par exemple. Les eaux, les roches, le pétrole, et il arrivait à le percevoir, alors que l'œil humain n'avait aucune idée de tout cela, bien sûr. Même les radioactivités, il y avait des témoignages où il anticipait les radioactivités, il arrivait à trouver des tombeaux qui étaient cachés, des sources souterraines, des icônes perdues. Il faisait revenir de sa mémoire des choses incroyables, des scènes qui s'étaient déroulées des dizaines d'années, et même plus auparavant. Et puis surtout, il lisait dans l'âme des gens. Et ça, c'était très fort. Tous ces esprits spirituels, et là, les témoignages abondent. Il y a eu des dizaines de livres de témoignages de ces fils spirituels qui sont parus en Grèce, alors qu'encore une fois, il est mort il y a 30 ans, 32, et il est canonisé que depuis 10 ans. Donc, c'est assez incroyable. Moi, j'ai lu une partie de ces témoignages, on n'en revient pas, tellement c'est abondant. Il lisait dans l'âme, voilà, il lisait dans l'âme. Quand on allait le voir, il savait très bien pourquoi on allait le voir. Il scrutait au plus profond de l'âme, mais sans jamais juger les gens. Tous les témoignages sont forts là-dessus. Il ne jugeait pas d'abord. Il a raison, seul Dieu juge, évidemment. Lui-même n'était là qu'un intermédiaire, parce que Dieu nous envoie des saints sur notre route pour éclairer notre chemin de vie, et non pas pour nous juger. Auquel cas, évidemment, j'allais dire, sa sainteté aurait été entachée. Pas du tout. Au contraire, il nous mettait sur le chemin de vie, sans nous juger, mais en connaissant le plus profond de nos âmes. Et il recevait aussi bien, d'ailleurs, les orthodoxes que les non-orthodoxes. Et on a de nombreux témoignages de gens non-orthodoxes qu'il a beaucoup soulagés. Par sa prière, d'abord, parce qu'il priait beaucoup pour les autres. Et puis, par son talent de clairvoyance, ce charisme dont parle la Bible, dont nous parle saint Paul, qui était tout à fait exceptionnel, et donc une marque de sainteté. Incroyable, quand même. Et c'était, je vous dis, il y a peu de temps, lui qui est curieux, signe du destin, qui est mort aveugle. D'ailleurs, les dernières photos qu'on a de lui, vivant, hein, on le voit les yeux fermés, et j'ai sous les yeux une très belle photo où il a l'étole, donc en train de confesser sans doute, où il a les yeux fermés parce qu'il était totalement aveugle. Donc ça ne l'a pas empêché jusqu'au bout de sa vie d'être clairvoyant comme cela. Magnifique, magnifique, une personnalité magnifique. Donc on a la chance d'avoir en français plusieurs ouvrages qui reprennent tous ces témoignages. Ce sont des témoignages réels. C'est pas une hagiographie d'un saint qui aurait vécu au 3e ou 4e siècle. Non, pas du tout. Ce sont des témoignages efficace, réel, de gens qui l'ont connu. C'est formidable de pouvoir côtoyer un saint qui a vécu il y a si peu de temps, quoi.
Alors, en lisant ces paroles, j'ai été frappé par son insistance à tout ramener à l'amour du Christ. Il me semble que c'est aussi une des caractéristiques de sa personnalité.
Vous avez raison. Sa devise, enfin, c'est mal dit. Sa phrase qui va partout, c'est « Le Christ est tout ». Vraiment, ça, je crois que c'est très important. Et tout tourne autour de l'amour du Christ, qu'il avait lui-même, l'amour envers Dieu. Alors, voilà, si vous permettez une citation. « Notre amour envers Dieu doit être très grand et sans qu'il existe quelques distractions en direction d'autre chose. » Alors là, il parle à quelqu'un. « Je te donne l'exemple suivant. L'homme semble posséder en lui une pile avec une certaine quantité d'énergie. Quand cette énergie, il la dépense à toute autre chose qu'à l'amour envers Dieu, l'énergie qui reste en lui-même, pour lui, est très petite et peut-être même souvent nulle. Quand au contraire, nous mettons toute énergie à la disposition de Dieu, alors notre amour envers lui est grand. » Donc il ramenait tout à l'amour de Dieu qu'il portait lui-même avant tout. Et encore une fois, donc, le saint, c'est quelqu'un qui est mis sur notre route pour illuminer notre chemin, notre route. Et lui, donc, il n'arrêtait pas de dire ça. Lui, Christ est tout. Et il nous entraînait, il nous prenait par la main pour nous convaincre de tout ramener à l'amour du Christ. L'amour envers Dieu, bien sûr, qui passe aussi par l'amour envers les autres, bien sûr. Le Christ est la source de la vie, de la joie. Il est tout. Il n'arrêtait pas. C'était ses mots tout le temps. Il en était convaincu et nous entraîne avec lui, tellement il est convaincant.
J'ai vu aussi qu'il nous parle beaucoup de la prière de Jésus, bien sûr, mais aussi de la prière silencieuse, lorsque les mots deviennent inutiles.
Vous avez raison. C'est ça. Ça passe directement par la prière, notre intimité avec Dieu, toujours ramenée à l'amour pour Dieu et à l'amour pour l'autre. Disons que la prière elle-même, pour Saint Porphyre, était vraiment la clé de sa vie. La clé de sa vie, alors, bien sûr, quand on est seul, s'il s'agit de la prière silencieuse, qu'il pratiquait énormément dans la mesure de ses possibilités, tellement il était occupé par les visites des uns et des autres, soit les visites qu'il faisait lui-même aux malades, soit tous ces centaines d'enfants spirituels qui venaient le voir. Le reste du temps, avec très très peu de repos entre deux, il a consacré à la prière individuelle, la prière silencieuse, bien sûr. D'ailleurs, il disait ceci, la clé de la vie spirituelle, c'est la prière. Personne ne peut enseigner la prière, ni les livres, ni les starets, personne. Le seul professeur en la matière est la grâce divine. Si je vous raconte qu'un miel est sucré, fluide, et qu'il a telle ou telle propriété, vous ne comprendrez pas tant que vous ne l'aurez pas goûté. Il en est de même avec la prière. Et je crois que ça résume bien. Encore une fois, donc, c'est un homme qui n'avait pas fait de grandes études, ou bien au contraire, il n'avait pas fait du tout. C'était un homme de la terre, j'allais dire, et qui parlait avec le fond de son cœur, et c'était chaque fois très édifiant. Et un autre exemple, donc, c'est quelqu'un qui va le voir et qui lui demande à apprendre la prière du cœur. Alors, donc voilà, il se place, cette personne-là, avec le saint à côté, se place face à une icône, et Saint Porphyre lui dit, nous allons maintenant faire la prière du cœur. Je dirai en moi les paroles en premier, puis vous les répéterez, mais faites attention, sans vous presser, ni en éprouver quelque anxiété. Vous les direz calmement, humblement, avec amour, avec douceur. Donc il commence, comme nous dit le texte, avec cette voix fluette, tendre et expressive qui était la sienne. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Il disait cela très lentement, mot après mot, sans se presser, comme si le Christ était devant lui, nous dit ce témoignage, et qu'il le suppliait. Il faisait une pause plus longue après Christ. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Et progressivement, donc après de très nombreuses répétitions de cette phrase, la prière du cœur que nous pratiquons, sa voix a disparu, n'a laissé la place qu'à des murmures, et la personne qui a fait ce témoignage me disait que dans ce silence-là, elle avait la sensation réelle que le Christ était là, près du saint, mais près d'eux. Par la prière, on peut tout. Le Christ est tout. Et je crois que c'est vraiment cela que l'on doit retenir de Saint Porphyre. Le Christ est tout. Alors, si vous voulez, donc, pour terminer, beaucoup plus modestement, je vais dire une prière à Saint Porphyre, puisque, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, il y a eu un engouement pour ce saint qui est absolument réel en Grèce, en tout cas, et de nombreux offices ont été composés, notamment un qu'on appelle un acatiste, qui est un office, voilà, qui est un office d'hommage à un saint, en tout cas. Et donc, je vais simplement donner une toute petite partie, comme ça, ça me permettra de me retirer discrètement. Tu aimas le monde entier, bien que tu aies abandonné toutes les joies et les idées du monde. Mystique véritable dans les cieux, tu as servi les multitudes avec joie. Tu les as tous sanctifiés grâce à tes prières, en les apprenant tous à chanter Alléluia. Réjouis-toi, qui soutiens un grand nombre dans la foi. Réjouis-toi, qui semas l'amour parmi les fidèles. Réjouis-toi, exemple parfait pour les prêtres. Réjouis-toi, canon impeccable de piété. Réjouis-toi, fleur de paradis qui fleurit sur la terre. Réjouis-toi, rivière profonde de compassion et d'amour qui s'écoule. Réjouis-toi, humble serviteur de l'Église. Réjouis-toi qui prie pour ceux qui sont dans l'affliction et les dangers. Réjouis-toi, noble demeure de grâce. Réjouis-toi, soutien radieux des fidèles. Réjouis-toi, maison du Dieu roi. Réjouis-toi qui orna des multitudes avec la piété. Réjouis-toi, Saint-Père Porphyre.
Merci Père Jean-Clément de nous avoir fait découvrir cette belle figure de l'orthodoxie qui est Saint Porphyre. Donc notre émission touche à sa fin et nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission si vous le voulez bien.
À bientôt, puis je salue tout le monde.
Oui, nous saluons tous nos auditeurs et nos auditrices.
Absolument, puis merci à Mathieu à la technique.
Présence auprès des personnes seules, pour vous accompagner pendant votre petit déjeuner, en voiture ou au milieu de la nuit, pour donner la parole aux acteurs de l'Église de notre région, Radio Présence a besoin de vous.
Soutenez Radio Présence. Envoyez vos dons à Radio Présence, 4 rue des Feuillants, 31300, Toulouse.
Présence.
Vous souhaitez joindre Radio Présence? C'est très simple. Par mail, contact@radioprésence.com, par courrier 4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse, par téléphone au 05 62 48 63 00, et enfin vous pouvez interagir sur nos réseaux sociaux Facebook ou Twitter.
Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne,
toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Jette-toi dans la mer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur.
Domitéo. Domitéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Louis.
La dernière fois, on a abordé à la fin de notre émission une image qui est celle de l'église comme la barque sur laquelle est déposée Pierre, qui est dirigée par Pierre, mais où se trouve le Christ. Et au numéro 753 du catéchisme de l'église catholique, il est dit que dans l'Écriture sainte, nous trouvons une foule d'images et de figures liées entre elles qui nous parlent du mystère inépuisable de l'Église. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'images de l'Église qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament ?
Alors, à la fois, il y a des images, je dirais, agraires, des images du pasteur qui soigne ses brebis. On pense par exemple à Ézéchiel, qui a beaucoup insisté là-dessus. On pense dans l'aspect agraire, depuis l'origine de la Genèse, on voit Abel qui est avec son troupeau, qui offre une partie de son troupeau en sacrifice, qui est agréé par Dieu, alors que Cain offre un sacrifice qui n'est pas agréable par Dieu, qui est purement végétal. On se souvient de cette distinction qui est très grande, et de nombreux autres passages de l'Écriture qui nous font comprendre que Dieu est finalement le bon pasteur et que nous sommes ses brebis et que nous formons donc par le rassemblement des brebis en un seul troupeau une image de ce que Jésus réellement réalise par son sang versé. La foi, disait saint Ignace d'Antioche, c'est son corps, et la charité, c'est son sang. C'est très beau, cette double lien que nous avons avec Jésus, puisque nous célébrons à chaque Eucharistie la séparation de son corps et de son sang au moment de l'élévation, puis son rassemblement au moment du péripsoum, au moment où le prêtre rassemble tout et redit à la fin du canon « par lui, avec lui, en lui » et rassemble finalement le pain et le vin au moment de la fraction du pain, et qui montre que ce corps qui nous est donné est ressuscité. C'est Jésus ressuscité finalement qui nous rassemble, et il y a donc toutes ces images déjà dans l'Ancien Testament qui seront reprises dans le Nouveau Testament, évidemment, pour nous aider à bien comprendre que l'Église est le bercail dans le Christ est l'entrée unique et nécessaire, comme le fait comprendre Saint Jean au chapitre 10. Elle est le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur, et dont les brebis, quoi qu'elles aient à leur tête des pasteurs humains, et parfois défaillants, hein, ajoutons-le, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ même, bon pasteur et prince des pasteurs, qui a donné sa vie pour ses brebis. Et nous devons donc bien comprendre que l'image donc du bon pasteur est pour nous déterminante. Saint Jean chapitre 10, c'est vraiment un des grands moments des temps après Pâques, où nous célébrons Jésus comme le bon pasteur, hein, le pasteur véritable. Et puis vous avez le terrain de culture, champ de Dieu, comme dira saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, et dans lequel l'antique olivier a pris ses racines, c'est Israël, et nous sommes greffés sur cette racine sainte qui opère réconciliation entre juifs et gentils. N'oublions jamais que l'Église est la réconciliation des juifs et des non-juifs, des juifs et des gentils, comme on les appelle, c'est-à-dire tous ceux qui n'avaient pas reçu la circoncision dans l'alliance d'Abraham et de Moïse. Et Dieu en est le vigneron. Souvenons-nous que Jésus s'est comparé à la vigne véritable sur laquelle nous sommes greffés, et le Père en est le vigneron céleste, et cette vigne véritable, c'est Jésus-Christ. Et ça, nous comprenons que circule donc cette sève qui va donner de beaux raisins, et Jésus promet que nous portions beaucoup de fruits, et ce fruit est pressé pour faire un précieux moût qui va servir à faire du vin, le vin de l'Eucharistie, et qui va servir à cette transformation du vin en son sang. Ces images sont toutes combinées les unes avec les autres, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a un véritable tamisage toujours autour des images agraires et qui vont nous permettre de voir le blé pousser et donner le pain qui va servir à l'Eucharistie, ou le vin pour le précieux sang. Donc tout est lié.
Donc à chaque fois qu'on voit un troupeau dans l'Ancien Testament, par exemple avec, je pense à Jacob qui prépare son troupeau,
avec Rachel, Ézéchiel, voilà,
avec
ça,
Rachel, oui. Et des vignes aussi, il y a des grands...
Il y a beaucoup de passages sur la vigne.
Sur la vigne, des grands champs d'Isaïe. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois, on peut penser que Dieu nous prépare au grand mystère de l'Église.
Exactement, exactement. Il y a dans la création déjà des semences de compréhension, des semences naturelles, je dirais, parce que Dieu est créateur, qui nous permet d'atteindre la compréhension surnaturelle de ce qu'est l'Église. Mais deux moments sont quand même plus importants dans toutes ces images, c'est la notion de corps et la notion d'épouse. Ça, ce sont vraiment les deux, je dirais, pôles, et d'ailleurs c'est par où commence le Saint Concile Vatican II en parlant du corps du Christ, et qui finit par l'épouse. Bien souvent, l'Église est construction de Dieu. Un corps, c'est quelque chose qui est construit dans le sein maternel. Il y a la première, d'abord, union des deux gamètes qui permettent de faire une cellule humaine autonome, et puis petit à petit, il y a la construction d'un corps qui se développe. Le sang de la maman vient nourrir ce petit embryon, vient lui donner toute vie par le cordon ombilical, et puis il se construit, puis finalement sort du sein maternel, coupe le lien avec sa mère, devient autonome dans un détachement qui est nécessaire. L'Église est née du sein de la synagogue et a connu une croissance. Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, et puis il y a eu cette croissance, cette naissance et ce détachement. Il y a eu rupture, détachement avec les pratiques de l'ancienne alliance, en particulier les pratiques sacrificielles du temple, les pratiques de la cacheroute, etc. on s'est émancipé de la chose dans une véritable autonomie, en gardant les grands éléments de la morale, les grands éléments d'un peuple rassemblé dans une liturgie, en entendant les instructions de Dieu, en gardant évidemment des grands éléments structurants d'un peuple royal, sacerdotal et prophétique. On retrouve les grands éléments qui étaient au début en Moïse, mais qui ont été éclatés à cause de sa faiblesse. Il n'a pas pu rester roi, il n'a pas pu rester prêtre, il a été obligé de déléguer en quelque sorte à sa succession, autour de lui, son frère Aaron qui est devenu grand prêtre. Il n'a pas pu garder les trois charges que Dieu avait fait poser sur cette belle figure si humble de Moïse, et Jésus les a rassemblés. Et nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois.
Et avec ces deux, il y a ces deux images de bercail, de vigne, le corps, tu as parlé de l'épouse aussi. Et au numéro 756, il y a un grand paragraphe sur tout ce qui est le temple. Est-ce que le temple est une belle image, une bonne image de l'Église aussi de ce...
Oui. De fait, le temple est une très belle image. D'ailleurs, on parle de temple du Saint-Esprit. C'est un des noms pour caractériser l'Église dans sa triple dimension trinitaire. Peuple de Dieu le Père, corps du Christ, temple de l'Esprit. Vous vous souvenez, ces trois expressions qui ont été retenues par le Concile Vatican II, justement dans le Lumen Gentium, pour bien rappeler que notre unité dépend de l'unité même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors bien sûr, ce sont des appropriations, parce que peuple de Dieu le Père, on peut dire aussi peuple de Dieu le Fils, peuple de Dieu le Saint-Esprit. Et quand on dit corps du Christ, on peut dire aussi corps de Dieu qui engendre le Fils, ou corps du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui forme ce corps. Et pareil pour le temple. On dit temple du Saint-Esprit, mais dans ce temple, on rencontre pas seulement le Saint-Esprit, on rencontre aussi le Fils et le Père. Donc, des appropriations nous permettent de rendre plus sensible à notre esprit la dimension trinitaire de l'Église, parce que l'Église tire son unité non pas de l'union des hommes, comme on pourrait le penser, comme dans une sorte d'association, je dirais, non gouvernementale, où les gens s'associent, et c'est ça qui forme le maillon avec un président, un secrétaire et puis des membres. Et ça se passe pas comme ça dans l'Église. L'Église tire son unité de l'unité même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lumen Gentium numéro 4. Et nous comprenons bien que si nous oublions cette origine divine, on va se répandre dans des actions, je dirais, peut-être philanthropiques, sympathiques, mais qui vont perdre ce témoignage de la foi, de l'espérance et de la charité. Sans la foi, l'espérance et la charité, nous ne sommes plus que des pions humains et nous perdons notre dimension divine de fils de Dieu qui doit témoigner du royaume au milieu des hommes.
Donc, avec toutes ces images dans l'Ancien Testament, on est impressionné, parce que l'Ancien Testament nous prépare à la venue du Christ, mais on voit que Dieu nous prépare aussi à la venue de l'Église.
Exactement, venue de l'Église, et venue même de l'Église à la fin des temps, comme dans l'Apocalypse, on parle de la Jérusalem d'en haut, et souvenons-nous le beau texte de l'Épître aux Hébreux, qui nous montre comme nous dirigeant vers cette cité bénie, cette cité du ciel dans laquelle nous sommes tous appelés, montant au milieu des myriades d'anges. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant. Donc on retrouve la cité, c'est la Jérusalem d'en haut, de la Jérusalem céleste et de myriades d'anges, réunion de fêtes, et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge, universel, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. Merci.
Merci frère Edouard, à bientôt.
À bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Thérapie Pop. Notre travail, chaque semaine, c'est de prendre en main votre culture musicale. Allongez-vous, détendez-vous. La prescription, anecdote, dernière sortie, explication d'album mythique, on s'occupe de tout, on s'occupe de vous. A très vite chez Thérapie Pop.
Thérapie Pop, tout l'été sur Radio Présence, du lundi au vendredi à 17h30.
Nos regards se confondent.